lapin. Et me voilà toujours aussi con qu'avant. Et me voilà la tête pleine de vent. Et me voilà pas plus malin pour autant. Pour autant. Et me voilà toujours aussi con qu'avant. Et me voilà la tête pleine.
Premier sortir d'un antre, d'une caverne, d'un ventre, percer le premier bouton, vider le premier abcès, ouvrir le premier accès, et te voilà rejeton. Fendre la première cosse sur le chemin, des bosses sur le chemin, tiens-lui la main. Et vient l'âge de la pierre, la peau s'arrache à la terre. Et vient l'âge des cailloux, des rougissants hématomes. Voilà, c'est le second homme que t'écris sur tes genoux. C'est l'âge de la cabosse sur le chemin. Des bosses sur le chemin, tiens-lui la main. Le temps te métamorphose, fait gonfler tes ecchymoses, sans être tombé, sans rien. Lassé des ballons qui poussent, des rondeurs, des pamplemousses, l'arnica n'y pourra rien. 12 ans la fée carabosse, sur le chemin des bosses sur le chemin, tiens-lui la main. Comme au tableau de l'enfance, sans doute que l'existence te réserve quelques coups. C'est des bosses indicibles, poussant dedans, invisibles, écrites sens dessus, dessous. S'effaçant d'un coup de brosse sur le chemin. Des bosses sur le chemin, tiens-lui la main. Enfin, c'est pas un mystère, tu finiras dans la terre, sous l'épiderme d'un champ. Petit bouton ridicule, petit pâté monticule, ça presse pas, y a le temps de prendre le coup de crosse. Bonne chance, bonne route, tes blessures font des croûtes. Et peut-être qu'à ton tour, tu prendras la cloque quand te viendra le dos devant d'une piqûre d'amour. D'une piqûre de gosse sur le chemin. Des bosses sur le chemin, tiens-lui la main.
Porte à mon cou en souvenir de toi, ce souvenir de soi qui se souvient de nous. Ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux. C'est qu'encore une fois, j'ai voulu comme un fou me souvenir de toi, de tes doigts sur mon cou, me souvenir de nous. Quand on se disait vous, si je porte à mon cou, en souvenir de toi, ce sourire de soi qui sourit comme nous sourions autrefois, quand on se disait vous, en regardant le soir tomber sur nos genoux, c'est qu'encore une fois, J'ai voulu revoir comment tombe le soir quand on s'aime à genoux. Si je porte à mon cou en souvenir de toi ce soupir de soi qui soupire après nous, ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi, c'est qu'il y a toujours...
Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission à émission des mots une voix, publico 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris. Vous pouvez aussi la contacter par mail à demo.unevoix@gmail.com. Nous recevons ce mois-ci la photographe et écrivaine Clémence Veillant pour son premier roman « Si blanche est la nuit » sorti aux éditions Exil en 2023 et avec l'écrivain et dessinateur et éditeur Frédéric Pajac pour son livre « Dans le calme du soir » sorti aux éditions Noir sur Blanc en 2023. Si vous le voulez bien, Frédéric Pajac, je vais commencer ces deux entretiens avec Clémence Veillant. Clémence Veillant, vous êtes née en 1980 à Paris. Votre mère est née à Oran, d'origine italienne, espagnole et française, est enseignante, puis fait de la mise en scène et joue au théâtre. Votre père est né à Strasbourg, d'origine juive et française, est pianiste classique professionnel. Il joue beaucoup Chopin. Enfance heureuse, globalement ?
Heureuse, enfance, c'est plus près, comme ça. Oui et non, je sais pas, heureuse, c'est vraiment pas le mot. C'est une enfance intéressante. Ça m'a intéressée d'être une enfant. J'ai trouvé ça chouette. J'étais avec des parents qui étaient vivants. C'est quelque chose de nostalgique. Enfin, j'ai une nostalgie encore pour mon enfance parce que c'était particulièrement. Mes parents croyaient en leur vérité et essayaient de vivre selon leur vérité. Donc mon père avec sa vérité à lui de pianiste, mais pour lui le piano c'était tout, c'était très important, c'était à la fois un travail technique puisqu'il fallait qu'il apprenne à jouer, donc c'est un travail où il fallait faire des gammes, faire énormément d'entraînement, c'est comme un sport en fait. Et de l'autre côté, être complètement relâché ou pour ressentir les choses ou la rencontre avec le compositeur. Donc ça, c'est très particulier. C'est le double mouvement. Il m'a dit des fois qu'il aurait préféré faire du jazz parce qu'il n'y avait pas autant de techniques. Enfin, bien sûr, les pianistes de jazz savent très bien jouer, mais ils n'ont pas autant de raideur dans la technique. Et c'est difficile d'accéder à son émotion après... En faisant en même temps cette démarche de rigueur, de discipline, c'est le mot discipline. C'était une discipline. Ma mère, elle préférait. Elle était aussi très disciplinée dans son théâtre ou dans son écriture, ou enfin dans son travail de professeur de français. Et elle était très rigide. On pouvait pas dire des choses. On pouvait pas dire n'importe quoi. Et en même temps, pareil, elle aimait l'explosion, le désordre, le chaos. Donc, c'est-à-dire mettre quelque chose de très ordonné pour pouvoir pas détruire, mais être dans le chaos et aller dans le chaos. Parfois, le chaos prenait la place. Par exemple, quand il y avait une fête, le lendemain, c'était compliqué pour mon père de rejouer du piano. Or, il y avait souvent des fêtes. Et c'était toujours un rapport de conflictuel entre leur désir de création très strict et très... où il fallait vraiment... Ils étaient dans un rapport... Il fallait que ce soit parfait. Il fallait que ce soit... Ça touche la grâce. Et de l'autre côté, un désir de vraiment de faire n'importe quoi. S'amuser, rigoler, rencontrer plein de gens, boire de l'alcool, faire tomber tout partout, manger, boire. Et ça fonctionnait pas. C'était compliqué pour la maison.
Vous avez eu un demi-frère de 5 ans, votre aîné, et un frère de 3 ans de moins que vous. De 3 ans à 13 ans, vous déménagez une quinzaine de fois. Est-ce déstabilisant de ne pouvoir garder ses amis IE, entre parenthèses, faits ou faites dans l'année, de ne pas les revoir ?
Oui, c'est triste des fois de ne pas pouvoir revoir ses amis. C'est quelque chose que j'oubliais. Enfin, quand le fait de déménager tout le temps, je ne m'en rendais pas compte en fait. j'étais juste dans un instinct de... J'étais très, très sociable. Parce que, justement, je voulais me faire plein d'amis tout de suite. Parce que je savais, quelque part, inconsciemment, que j'allais devoir partir. Donc, j'avais pas le temps à perdre de me faire des amis pendant trois ans pour être des vrais amis. Non, j'avais envie de communiquer avec d'autres personnes. Donc, j'arrivais le premier jour de l'école. Je me disais, qui a l'air cool? Et j'allais voir tout de suite les personnes que je trouvais sympas. Et je devenais super amie, très proche, très fusionnelle. Mais après, c'était toujours... du jour au lendemain, j'étais pas souvent prévenue, fallait partir, fallait tout oublier, fallait plus parler aux gens, pas rappeler pour des raisons particulières. C'est...
Que lisiez-vous alors ?
Alors,
Enfant.
J'ai noté quelques livres comme ça qui me sont venus en tête. Un des premiers livres que j'ai lu, c'était... Enfin, d'abord, j'ai commencé par prendre des livres au hasard dans la bibliothèque de mes parents, qui était une bibliothèque extrêmement... avec beaucoup, beaucoup de livres. Il y avait toujours beaucoup, beaucoup de livres, et beaucoup de livres qui étaient cornés, abîmés. On avait le droit d'ouvrir les livres, on avait le droit de les ouvrir à n'importe quelle page. C'est comme ça qu'on m'a appris à lire. Et de lire deux lignes, 15 lignes, trois chapitres, du début à la fin, commencer par la fin, commencer par le milieu. Donc, j'ai commencé par... simplement déjà regarder des phrases un peu partout et surtout par regarder les premiers livres qui étaient interdits parce qu'il y avait toujours une étagère où ma mère me disait « Cette étagère-là, vous n'avez pas le droit de lire. » Et bien sûr, j'ai pris ces livres-là en premier. C'était donc quoi ? Sade.
Voilà.
Mais je ne sais pas ce que j'ai lu à l'époque. Tout ce que je sais, c'est que ce n'était pas du tout dans une volonté littéraire. Pour moi, la littérature, c'était de savoir ce qui était interdit. Ce n'était pas du tout... lire des livres pour faire bien, pas du tout, c'était parce que je me disais là c'est apparemment le truc qu'on doit pas savoir, donc ça doit être ça qui doit être intéressant. Et après j'ai quand même lu
des livres. Vous vous rappelez d'autres auteurs que Sade?
Sade, ça a été Sade. Je me souviens d'avoir lu un truc, c'était, je crois que c'était Octave Mirbeau, mais je me souviens plus grand chose, mais à part que ça m'avait choqué et fait peur. Et après j'ai pris des livres, j'ai quand même choisi des livres, et bizarrement j'ai plus simple, comme les quatre filles du docteur March. Ça, c'était vraiment le premier livre que j'ai lu en entier avec Alice au Pays des Merveilles. Et les quatre filles du docteur March, j'adorais parce que voilà, je me suis identifiée, une petite fille, une jeune fille. Moi, j'étais plus petite. Et donc, j'ai commencé à me dire, la vie, en fait, c'est comme un roman. Voilà. Il y a plein, je peux parler de plein de livres que j'ai lus.
Alors là, vous avez répondu à ma question, c'était aviez-vous accès à une bibliothèque familiale ou municipale où vous pouviez lire ce que vous vouliez? Donc vous avez répondu. Mm-hmm. Votre famille retourne en région parisienne, votre père arrête ses carrières de pianiste et vos parents montent une compagnie de théâtre. Vous, les enfants, manquez beaucoup l'école pour l'univers du théâtre, répétition, hôtel, restaurant le soir, etc. Quels souvenirs de cette période avez-vous ?
Alors, j'ai souvenir de banquettes rouges, qui étaient un peu l'endroit où je m'endormais. De grands couloirs de théâtre, de silence, parce que ça soit le théâtre ou la musique, il fallait se taire en tant qu'enfant, parce qu'on va pas déranger les répétitions. Et donc, on entend des grands textes. Alors, j'ai souvenir des Molières, des textes auxquels même Maurice Maeterlinck, donc c'était des... Je sais pas, j'entendais toute cette poésie. Et en même temps, moi, je m'amusais comme une petite fille normale avec mon frère. On courait dans les couloirs, on dessinait, on s'ennuyait. Ça nous ennuyait quand même un peu de dessiner. Parce qu'on nous donnait toujours... C'était toujours la même chose. On arrivait au théâtre, on nous donnait... Tenez les enfants, un paquet de feuilles A4 blanches, quelques feutres, pas des super feutres. Et il fallait qu'on dessine pendant genre toute la journée. Donc non, au bout d'un moment, on avait marre. Donc on a trouvé plein d'idées. Parfois aussi, on avait le droit de s'amuser avec les costumes. Donc, il y avait plein de costumes de théâtre. Il y avait des costumes anciens avec des velours, des trucs à paillettes, des boas. Ça, c'était génial pour s'amuser.
À l'époque, c'était des vrais boas.
Ouais, c'est ça. Donc ça, j'aimais bien les costumes. Après, les comédiennes qui venaient me demander « Est-ce que j'étais bien ?» Alors ça me gênait parce que je savais pas ce qu'elle voulait dire par là. Je me disais, pourquoi elle demande si elles ont été bien? J'étais là, j'en sais rien, il faut demander à ma mère. C'est ma mère la metteur en scène, moi, pas moi. C'était drôle, ça.
Vous découvrez un livre de photos gitan de Koudelka qui vous passionne, livre dont vous tombez amoureuse, Clémence Veillant. En 1989, vous partez pour le sud de la France. Vos parents sont très peu là. Vous êtes gardé par des voisins ou votre grand frère. C'est la campagne, re-Paris, puis retour à Aix-en-Provence. Marseille après en 93, alors que vos parents se séparent. Ce livre de Koudelka, c'est votre rencontre avec la photographie ?
Oui. En fait, je l'ai trouvé par hasard. Donc, bien sûr, j'étais toute seule, comme souvent. Et donc, je m'amusais à chercher dans les livres. Et là, j'ai vu ce livre de Koudelka. Mais je ne savais pas du tout que c'était... Enfin, franchement, il y avait très peu de livres de photos dans ma famille. Ils n'aimaient pas la peinture. Je n'avais pas vraiment de culture histoire de l'art. Et là, j'ai vu ce livre et je me suis dit, tiens, des enfants. Et je me souviendrai toujours le regard des gens, en fait, sur ces photos, qui étaient des photographies documentaires sur des gitans. Et leur manière de vivre, en fait... qu'ils étaient, par exemple, un peu habillés n'importe comment, ils étaient dans un truc de, je sais pas du tout, je trouvais que ça me ressemblait, et à la fois c'était différent et étrange. Donc j'ai demandé à mes parents, c'est quoi les gitans? Et ils ont essayé de m'expliquer, mais ils savaient pas trop comment l'expliquer, et j'ai commencé à regarder les images pendant des heures et des heures. C'est ça qui me plaisait beaucoup. De regarder les images et puis après se laisser aller dans l'image, surtout Koudelka. En fait, j'ai eu de la chance parce que lui, il y a plein de compositions, de cadres avec des profondeurs de champ, des plans. En fait, on peut rester pendant très longtemps devant une image. Et en même temps, il y avait le côté documentaire. Donc, un peu les trucs genre, waouh, ces gens, ils vivent pas comme nous, ils sont trop bizarres, ils sont trop strange, j'aimerais trop les rencontrer, tout ça.
Vous repartez à Paris, hébergé avec votre mère, pleine de chagrin. Après, vous commencez une option théâtre au lycée Molière. Votre père vous annonce homosexualité. Plus tard, il se mettra avec une femme. Et votre mère part vivre avec une petite amie. Vous découvrez les livres de photographie à la bibliothèque de la MEP. Votre premier appareil photo à 16 ans. Et vous découvrez avec un ami les bases de la photo argentique. Ce sont vos vrais débuts en photo ?
Oui.
Vous apprenez l'argentique.
En fait, exactement ce qui s'est passé. Donc, je voulais faire de la photographie puisque j'avais une passion. J'allais à la bibliothèque, comme vous l'avez très bien dit, donc pour regarder des livres de photographie. À ce moment-là, ma mère était partie. Donc, on était assez libre avec mon frère. Et pour m'amuser dans la maison, je disais, je veux un appareil photo. C'était un peu une blague, mais c'était sincère quand même. Et je criais toujours dans la maison, je veux un appareil photo. Et un jour, il y a un ami de mon frère qui était au lycée, avec mon frère, qui m'est venu, qui m'a dit, Clémence, je sais que tu veux un appareil photo, ça tombe bien parce que j'en ai un pour toi. Et je ne sais même plus comment il s'appelait, ce garçon, Hugues, je crois. Et il me dit, j'ai trouvé un appareil photo sur une tombe au Père Lachaise, je ne l'aurais pas volé d'habitude, je l'aurais rendu pour si jamais... Mais il m'a dit, je pense que... De toute façon, si je le rends à la police, ça servira à rien, puisque ça se trouve, ils vont même pas retrouver les gens, rien. Et puis, comme tu voulais tellement un appareil photo, je me suis dit, c'est un signe du destin, je dois te le donner. Et il me l'a donné. Et c'était un boîtier école, c'est-à-dire, c'est des appareils photo parfaits, quoi. Genre, avec une optique, on peut mettre une pellicule, on peut tout régler manuellement.
24-36.
Et sauf que je savais pas comment m'en servir. Donc après, après, c'est là que j'ai rencontré une personne qui m'a appris, qui m'a formé, un copain, quoi, qui était lui, qui connaissait la technique photographique, qui a pu m'expliquer comment l'appareil marchait. Mais c'est quand même dingue, quoi. Enfin, l'appareil, on me l'a vraiment donné, et ça s'est fait comme ça, naturellement.
Après le bac, vous êtes assistant d'un scénographe de théâtre et collaboré avec Rodolfo Natal. Ensuite, vous êtes journaliste à la Grosse Boule Radio Nova, engagé dans la société de production de Jean-François Bizot et Ariel Wiesman. Sorti dans les clubs. Début d'écriture. d'un scénario et prise de photos en argentique. 2 ans assistante réalisatrice à IAMI 2. Je passe d'autres aspects de vos vies, Clémence Veillant. Vous exposez votre première exposition de photos à l'espace Mycroft, à Paris, je crois. C'est bien Paris, Mycroft ?
Oui, oui, oui.
C'est 10 photographies des Schwim Girls. Milomir Kovacevic devient votre tireur et ami. Ensuite vient la série « Je n'ai jamais été une petite fille », toujours à l'espace Mycroft. Vous êtes engagé quelques semaines pour Aparnan Goldin. Est-ce un palier, votre parcours photographique, cet engagement ? Dans votre parcours photographique, cet engagement ?
Dans mon parcours photographique, je pense que c'est plutôt dans mon parcours de vie que ça a changé les choses. Parcours photographique, c'est surtout, en fait, avant de rencontrer... Donc cette photographe Nan Goldin, et j'avais que l'éducation de mes parents en fait. J'avais rencontré des personnes qui étaient intéressantes, qui m'avaient parlé, qui m'avaient donné plein d'idées, de connaissances. Mais elle, c'était la première fois que je rencontrais une personne où c'était une artiste qui était, je sais pas. Compliqué quoi. C'était pas c'était ça a changé ma vie parce que ça m'a amené quand même dans quelque chose de noir. Avant, j'étais très gaie, j'étais une fille très solaire et très facile. Quand j'ai rencontré Nan Goldin, en fait, c'était douloureux, beaucoup de douleur et beaucoup de vérité. Beaucoup d'incompréhension. Et donc, comme elle était... Donc c'est ça, elle m'a fait rencontrer ma part de noirceur, ma part d'ombre, et c'était pas forcément facile. C'est pas quelque chose de... C'est pas une expérience facile. Elle est pas dans la facilité. C'est pas quelqu'un qui essaye d'être sympa, par exemple. C'est pas quelqu'un qui essaye de faire que la vie, tous les jours, c'est juste sympa, on a passé une bonne journée. Non. Elle veut tout... Comme si, je pense qu'elle elle m'a permis d'essayer d'accéder plus à ma vérité que à un confort de vie ou quelque chose genre...
Juste. Mais par rapport à la photo, elle est quand même photographe, mais on la connaît pour ça, quoi, je veux dire.
Bien sûr.
On connaît sa vie, mais on la connaît parce qu'elle est photographe. Elle serait pas photographe, on la connaîtrait moins.
C'est ça.
Et par rapport à la photo, vous ?
Bah, elle m'a plutôt fait presque faire moins de photos. D'ailleurs, j'ai écrit avec elle. Enfin, c'est elle qui m'a. C'est la première personne qui m'a dit que j'écrivais bien. J'écrivais ses textes pour. Moi, j'étais un peu secrétaire. Je faisais du secrétariat, un peu
faisais
tout, un peu
tout, quoi. Faisais tout.
Donc, à un moment donné, il fallait écrire des textes pour, par exemple, présenter un projet de ces photographies. Donc, elle m'a dit, bah, tiens, essaye, tu veux écrire le texte. Et là, j'ai écrit en anglais, alors que je parle pas je parle super mal anglais, en plus. Et donc, je me suis mise à écrire en anglais et on a commencé à s'amuser sur l'écriture, toutes les deux. C'était ce point-là sur lequel on s'est amusé. Et là, elle a commencé à me dire, en fait, j'écrivais en anglais et elle remettait en anglais en bon anglais, mais elle me disait, je sais pas ce que tu la photographie, je sais pas où t'en es, je sais pas si c'est ton truc. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'écriture. Pour elle, c'était ça. Comme dans son rôle de Pygmalion avec moi, elle m'a plus poussée vers écrire parce qu'elle me disait, t'as une façon de voir les choses qui est complètement pour elle, c'était drôle. En fait, ça lui plaisait. La photographie, je pense que. Elle voulait que j'aille dans un extrême, c'est-à-dire parce que oui, vous dites elle est photographe, mais avant tout, c'est une personne qui photographie sa vie. Donc et sa vie, c'est il faut être capable de dévoiler son intimité. Or moi, dans l'image, j'étais pas capable encore de dévoiler. Enfin, j'avais pas cette démarche-là. J'avais pas envie de montrer qui j'étais. Je voulais rester secrète. C'est pas très clair où ça va ?
Si, c'est clair. Plusieurs expositions, dont une série à la chambre, 24 images dans la vie d'une femme. Puis à nouveau, un an avec Nan Goldin. Après, Bagneux, avec des adolescents, et à la prison des Baumettes à Marseille. Lors de la première nuit d'exposition des prisonnières, les photos sont volées au Doc des Suds. Diverses expériences, et en 1922, vous finissez votre premier roman. Si blanche est la nuit, sortie aux éditions Exil. Vous pensiez à l'écriture depuis longtemps ? Certaines de photographies sont légendées.
En fait, c'est qu'au départ, quand j'ai fait mes premières photographies, Je les ai montrés dans une exposition, dans plusieurs expositions. Et en fait, j'avais fait des photos de nus. Et il y avait plein de gens qui arrivaient, qui donnaient des réflexions sur les photos qui étaient, que je trouvais. En fait, j'avais l'impression qu'ils n'avaient rien compris à ce que je faisais. Donc j'étais inquiète, en fait. Je me disais, mais ils n'ont rien compris. C'est l'inverse. Par exemple, une fois, il y avait, je sais pas, un mec qui arrivait qui disait... Ah, mais les filles, elles ont vraiment des seins qui sont pas du tout beaux. En fait, j'avais voulu lutter contre une façon de voir le corps féminin. Et en fait, à la fin, j'avais l'impression d'avoir presque fait l'inverse. C'est-à-dire que je proposais des nus et qu'il y avait des gens qui se rinçaient l'œil dessus. C'était insupportable, quoi. Il y a eu plein de fois où j'avais envie de les... Je savais pas quoi faire, en fait. Et en plus, comme j'étais quelqu'un qui parlait pas... et que je photographe, j'essayais de parler un peu de trucs que j'arrivais pas à dire avec des mots, bah du coup je parlais pas et donc en fait j'étais coincée comme mes photos, comme les filles sont dans mes photos, ça, j'étais coincée, genre la fille qui parle pas, qui monte des photos de nus, qui se fait à moitié insulter et qui peut rien dire, en fait. Donc du coup je me suis dit bah faudrait peut-être mieux écrire des textes, comme ça dans les textes, bah là personne ne pourra dire autre chose que ce que t'as écrit, parce que ce que t'as écrit c'est ce que t'as écrit. Donc j'ai essayé d'écrire une histoire avec des mots et de la photo, un peu. Et du coup, c'est pour ça que j'étais vraiment contente aussi de... Enfin là, j'aime beaucoup l'association de la photo avec les mots ou des dessins aussi avec les mots. Mais à l'époque, c'était mal vu parce qu'on disait qu'il fallait qu'on ait qu'un seul métier et qu'il fallait qu'on soit seulement photographe et pas... Et écrire, c'était... en plus, ça, c'était pas professionnel, quoi. Voilà, donc du coup, j'étais pas du tout encouragée là-dedans, mais je l'ai quand même fait.
Mais c'est un peu comme vous, Frédéric Pajac. Dessinateur, écrivain, éditeur, c'est louche.
Tout à fait. c'est pas incompatible. Et...
Mais bien sûr, je rigole. Hein,
rien n'est incompatible. Non, mais c'est vrai, dans l'absolu, on peut tout mélanger, en fait. On peut vraiment tout mélanger.
L'artiste absolu, c'était bien Vinci.
Oui. Il y en a d'autres.
Oui, non, mais bon, c'est la référence, quoi, qui faisait tout.
Oui.
Architecte, enfin, tout. Alors, on va parler maintenant précisément, Clément, si vous voulez bien, de Si Blanche et la Nuit, sorti aux éditions Exil. Alors, pourquoi ce titre? Je vois au moins deux raisons.
Là, vous me les dites ou...
Bah, Blanche, vous savez pourquoi? On le retrouve dans le livre, c'est un prénom. Et les nuits blanches.
Voilà. Les nuits blanches, et puis blanche, c'est la magie blanche.
Ça, je n'y ai pas pensé.
Blanche, c'est la magie blanche. Blanche, c'est la drogue aussi, la poudre blanche. Mais c'est vraiment... Je voulais qu'il y ait le terme de blanche, parce que comme c'est dans un univers où les gens s'amusent avec le diable... Je voulais me protéger en mettant le mot blanche pour bien me placer dans quelque chose de magique mais blanc.
Puisque vous en parlez, la narratrice elle prend beaucoup de drogue dans ce livre, par exemple.
La narratrice aime beaucoup la drogue.
Presque à toutes les pages.
Aime beaucoup les drogues. La narratrice adore les drogues parce que ça l'amuse, ça lui plaît. Voilà, c'est quelque chose. Elle aime bien prendre des drogues, même si elle en prend pas tant que ça. Elle en prend un peu, mais pas tant que ça. Elle essaye d'arrêter.
Non, c'est le milieu où elle est.
Elle essaye d'arrêter. Elle est dans un milieu où il y a plein de. Elle essaye de pas trop se mettre là-dedans, mais en même temps, elle adore ça parce que ce qu'elle adore, c'est la dérive. C'est une narratrice qui est dedans. Elle est dans un milieu de drogue. Elle-même, elle en consomme, elle est plus en contact avec la réalité. Personne n'est plus en contact avec la réalité.
Il y a même un moment, dans le deuxième chapitre, parce qu'il y a trois chapitres dans votre livre. Un premier qui est une histoire avec un homme, la narratrice est un homme, à Paris dans une chambre. La deuxième partie, c'est avec une photographe célèbre. Bon, je pense qu'il y a un peu du modèle de Nan Goldin, quand même. Hein.
Oui, oui.
On ne peut pas dire le contraire. Il y a un peu d'autobiographie. Et la troisième partie, c'est une rêve partie dans une île. Moi, vous voyez, je m'étais trompé. Je l'avais mis dans une île de la Manche. Et maintenant, je sais la vérité, donc c'est pas une île de la Manche, mais on le dit pas parce que c'est pas dit dans le livre.
Non, c'est pas dit.
Donc faut pas le dire.
Voilà, on dit pas.
Alors,
en fait, c'est ça, c'est un milieu où, en fait, les drogues. Moi, je suis pas quelqu'un. Je prends plus du tout de drogue aujourd'hui. Presque plus. Je ne suis pas convaincue que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée. Mais à un moment donné, j'ai vraiment aimé ça. Et j'ai vraiment pensé que c'était ça la solution. Pourquoi ? Pour casser toutes les codes, les règles que j'avais apprises. Ce que je voulais, et ce que veulent les personnages de mon livre, c'est inventer un monde nouveau. Un monde où il n'y aurait plus du tout d'obligation de morale. Où il n'y aurait plus du tout de... On dit, on sait ce qu'on doit faire comme ça parce que... Donc c'est vraiment l'exploration de cette... culture, d'une inventivité, du futur. C'est style, on s'en fout, en fait. On pourrait presque mourir, parce qu'en fait, on n'a même plus peur de la mort, on n'a peur de rien. Moi, je suis persuadée aujourd'hui, depuis cette expérience, que la mort n'existe pas. Je pense que c'est un mensonge, en fait, qu'on nous fait croire que la mort existe. Mais
comment
je vous dis ça, je sais que ça doit être un peu...
Expliqué.
Ben, je pense qu'en fait, on nous dit que la mort existe, mais qu'au moment de mourir, en fait, on va se rendre compte que c'était presque une blague. Que c'était pas vrai.
Pensez quelque chose après?
Je pense qu'en fait, au moment de mourir, en fait, on va pas, enfin, ça va pas avoir lieu. Des fois, je pense ça. Des fois, je me dis, non, Clémence, tu dis n'importe quoi, c'est impossible. Mais j'espère. C'est ça.
C'est bizarre.
J'espère que c'est ça, ouais. Ouais, c'est bizarre, ouais. C'est des idées, justement, parce que sur la vie éternelle. Enfin, c'est la volonté de défier la mort, quoi. Mes personnages, ils veulent défier la mort, mais ils réussissent pas.
Il y a, par rapport au sujet, la question que je vous ai posée, il y a un moment, la narratrice est avec la photographe célèbre, et elle prend de la cocaïne, elle en prend, il y a une petite ligne. Et là, elle a besoin d'en reprendre dans sa tête. Elle en veut en reprendre. Donc la narratrice, elle se rend bien compte qu'il y a un danger d'accoutumance.
La narratrice, elle se rend bien compte qu'en fait, elle n'arrive plus à tenir. Tout est manque, tout est addiction. Sa relation amoureuse, sa relation à la photographie, sa relation aux drogues. En fait, il n'y a plus aucune place pour juste être là, tranquille, et voir ce qui va se passer. En fait, c'est... Il faut absolument faire intervenir de la chimie, faire intervenir de l'extraordinaire, de la rencontre. Alors, on ne peut pas juste arrêter. L'addiction, c'est une position par rapport à la vie de consommation, quand même. Hein. Moi, je trouve... Maintenant, je trouve que... Non, mais c'est la jeunesse. C'est les erreurs de jeunesse.
C'est ça, quoi.
Voilà.
Et quand, par exemple, le jeune homme, l'homme dans le roman, ça, en fin de compte, c'est un amour, simplement, tout ce qui se produit.
C'est un amour ?
Oui.
Oui, c'est
qu'un amour.
C'est qu'un amour, exactement.
Qui est excessif, comme sont les amours, parfois.
C'est ça, mais c'est parce qu'en fait, il y a tellement de peur qu'il n'y a plus vraiment de place pour l'amour aussi.
C'est lui qui est excessif, en plus, dans l'histoire. Quand, par exemple, il casse la vitrine et que vous fuyez, enfin, que la narratrice fuit par les toits et...
Oui, alors, il est excessif, mais elle est excessive parce qu'elle est extrêmement admirative.
Ouais, elle le suit, quoi. Elle pourrait lui dire, démerde-toi, quoi.
Elle pourrait se tirer.
Ben voilà.
Non, elle se tire pas du tout parce qu'en fait, elle est super admirative. Alors, il y a aussi une chose qui n'est pas dite dans le livre, mais qui est importante, c'est que le personnage de Blanche, qui a 19 ans, n'a pas forcément la possibilité de partir. Elle vit avec son amoureux Kiss dans ce studio. J'ai pas voulu, parce que c'est pas un travail social, hein, je suis pas en train d'essayer de parler de questions sociales, même si ça m'intéresse beaucoup aussi. Mais elle peut pas partir en fait en réalité, mais parce qu'elle a fait en sorte de fusionner. Alors bien sûr, ses rapports avec certainement le père, alors je donne des petites pistes, le père...
Le père lui manque, du deuxième ou troisième chapitre.
Voilà.
Il y a cette cité. C'est ça, dites-le le titre.
Sans père et sans boyfriend. C'est-à-dire que elle se dit, allez, moi je vais vivre, je m'en fous d'avoir un père, je m'en fous d'avoir un petit ami. Mais en fait, c'est pas vrai, parce qu'en fait, elle est dans le manque du... Elle veut son père, mais en fait, elle l'en veut pas parce qu'il est trop rigide. Alors on parle de ça, de la rigidité. Elle est dans des contradictions, quoi. Et elle est dans le manque. Son père lui manque, sa structure lui manque. Cette photographe, c'est comme une mère, mais une mère qui joue pas son rôle de mère du tout, parce que c'est pas sa mère, c'est une photographe, quoi. Alors, c'est une mère, mais qui prend des drogues, enfin, je l'ai pas dit là-dedans, mais qui est complètement délire, quoi. Et ils font de l'érotisme, des photographies érotiques. Alors, ça n'a rien à voir avec une mère, mais elle confond tout. Blanche, elle n'a aucune pensée. C'est ça
dans
que
l'appartement, par exemple, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte dans l'appartement.
Voilà, il n'y a pas de porte. Et puis Blanche, elle essaye de découvrir sa sexualité. Elle ne sait pas comment on fait. Elle essaie de copier la photographe qui a l'air beaucoup plus... délurée qu'elle, ou de se connaître, de vivre des expériences incroyables. Du coup, elle essaye d'être comme elle, mais... En fait, elle est pas sincère, Blanche. Blanche, elle est portée par le mouvement, quoi. Et du coup, elle se retrouve à essayer de découvrir sa sexualité, mais c'est trop volontaire. Et mais en même temps, c'est mignon. Moi, je l'adore, ce personnage. J'ai un rapport, c'est comme une petite fille, quoi. Et alors, du coup, c'est là qu'elle lui arrive plein d'embûches, plein de problèmes, parce que, elle est pas sincère. Elle sait pas où elle est, elle.
C'est dit qu'elle a 19 ans dans le livre?
Oui, c'est dit.
Ah, j'ai sauté, j'ai pas vu. Que tout le monde leur prenait dans les articles, et moi, il me semblait que je ne l'avais pas vu. Quelle envie, désir, nécessité vous ont poussé à écrire puis publier ce texte? Et c'est quoi la démarche entre écrire et publier, la différence?
Publier, c'était pour... parce que je voulais rencontrer des gens, en fait... C'est un peu bizarre, mais en fait, je me disais, si tu publies, tu rencontreras des nouvelles personnes. Parce que ton texte va amener des rencontres. Donc ça, c'était important pour moi. Et de mettre aussi, de terminer, de finir. Je ne peux plus le réécrire. Je l'ai réécrit tellement de fois, ce texte.
Alors, comment vous l'avez écrit, par exemple? J'ai une question. On va tout de suite y passer, ça vient à ça. Comment écrivez-vous? À la main, à l'ordinateur?
J'écris
les deux. On a la réponse, là.
j'écris les deux. Enfin, j'écris d'abord, des fois à la main et des fois avec l'ordinateur. Le plus souvent, je note des idées à la main sur des feuilles de papier. Et après, je vais aller sur un ordinateur. Après, j'imprime. Après, j'écris à partir de mes textes imprimés. Et après, je recopie. Et souvent, je recopie. Souvent, j'écris à la main. Mais pas tout le temps. Parfois, ça m'arrive d'être devant l'ordinateur aussi.
Dinger en reprenant beaucoup?
Pardon?
Vous écrivez Dinger en reprenant beaucoup?
J'écris en bougeant. Et en écrivant, non, pas du tout Dinger. Phrase par phrase. Et souvent, je me mets dans une atmosphère debout. Avec de la musique, et j'essaye de faire comme un truc pour que mon énergie soit une énergie que je veux garder. Au moment où je me sens bien et que je sens une énergie qui me plaît, j'essaye d'écrire une phrase qui est la suite du livre. C'est un peu mais c'est comme une formule magique. Moi, vraiment, je l'ai écrit comme ça, ce livre.
Vous pensez à la phrase, alors. Vous l'écrivez dans votre tête et après, vous la recopiez.
Voilà. Exactement.
En reprenant beaucoup le texte, à votre bureau, dans votre lit, au café ou ailleurs?
Non, j'ai besoin d'être dans un espace fermé où il n'y a personne qui me regarde. Enfin, sauf quelqu'un qui peut passer. Je prends sur moi. Mais j'aime pas trop quand quelqu'un passe, mais je l'accepte. Enfin, je vais pas commencer à dire oui, je dois être seule. J'accepte, quoi. Si un copain passe, va se faire un café. Souvent, je travaille dans la cuisine ou quoi. Mais par contre, non, dans un café, j'y arriverai pas.
Le matin, la nuit?
Le matin, au réveil.
Moi, je peux vraiment pas le matin. Vous écrivez le matin ou pas, Jacques?
Non, jamais.
C'est dur, hein, le matin, quand on se réveille. C'est très dur.
Le matin au réveil, moi j'adore. Entre les rêves, pour être entre mes rêves et pas trop dans le contrôle, quoi. Mais ça dépend, il y a des gens pour qui la nuit, c'est le moment où on est avec ses rêves. Moi, c'est plus le matin.
Vous pourriez noter vos rêves et puis écrire la nuit?
Voilà,
enfin, en début,
exactement.
En début,
ouais,
de soirée?
J'essaierai peut-être. Mais bon, il y a des passages qui ont été écrits le soir, hein. Mais souvent, je fais une sieste avant de commencer à écrire, quoi. Enfin, c'est vraiment lié au sommeil, hein. Et pour les photos, c'est pareil, hein. Souvent, je dors avant de réfléchir à mes images. J'essaye de dormir, d'être en demi-sommeil. C'est, ça aide, mais vraiment, enfin, pour moi, c'est... Parce que je suis triste, ça enlève la nervosité. Et c'est plus un peu... Ouais, comme il faut pas... Bien sûr, je suis claire quand j'écris. Donc, moi, j'ai du mal avec la clarté. C'est quelque chose qui me fait peur. Donc, le sommeil me permet d'accepter plus la clarté.
Comment est construit ce livre? En trois parties, pourquoi? Que signifie-t-elle?
Alors, trois parties. La première partie, c'est pour me souvenir, ne jamais oublier la réalité de la relation qui m'a inspirée, les deux personnages Blanche et Kiss qui sont amoureux. Donc c'est la douleur, quoi, la douleur de mon personnage. La deuxième partie, c'est où tout a commencé. Quand elle a commencé, en fait, à perdre pied et devenir... Et aussi son rapport à l'image. Et donc là, c'est avec le personnage d'Hélène Hoffmann, mais qui est, bien sûr, aussi inspiré de la relation que j'ai pu rencontrer avec Nan Goldin. Et la troisième partie, c'est la libération, quoi. C'est quand, finalement, elle arrive à casser les fils, les liens.
Et... N'importe quoi, la troisième partie. Ouais. C'est on se lâche, quoi.
C'est la partie où je m'amuse vraiment.
On jette le Leica au fond, voilà, de la piscine.
Oui, c'est ça. On jette le Leica, on détruit le Leica. C'est bon, quoi. Là, ça suffit.
Bah là, il y a des jeunes qui sont en train de faire la fête en ce moment. Voilà, dans une techno-partie.
Oui, certainement, c'est sûr. Il y en a toujours.
Non, non, mais il y a c'est la grande, là, vous savez, là. Qui dure 3-4 jours, techno, je sais pas quoi, Technival.
Ah ouais?
En ce moment, c'est le Technival.
Ah ouais, ouais, ça peut
et
être.
Et quand on écoute les infos, ils disent grand Technival, 30 000 personnes. Et à chaque fois, ils disent interdit. Interdit par la préfecture. Ils rappellent bien que c'est interdit. C'est que ça qui les intéresse.
Mais 30 000 personnes, c'est quand même beaucoup. Hein. Bah et c'est hyper dangereux. Hein. Enfin, moi, je suis allée dans des festivals techno, j'adore et tout, mais des petits, où il n'y a pas beaucoup de monde, maximum 3000 personnes. 30 000 personnes, c'est vraiment dangereux. Mmh. Parce qu'en fait, là, il n'y a plus aucune sécurité. Enfin, vous arrivez, vous êtes drogué, parce que c'est quand même un endroit où tout le monde consomme des drogues. Et en fait, il n'y a plus d'humanité, 30 000 personnes. Moi, ça me fait flipper, quoi. Je trouve ça triste.
À un moment, Blanche, le personnage principal, se retrouve à son studio avec deux femmes et son amie pour aimer. Elle n'a pas de désir, il ne vient pas. Ce n'est pas automatique, entre guillemets, le désir. Conséquence logique dans une situation, entre guillemets, favorable.
Le désir, en fait, le problème de le désir ne vient pas, sauf avec celui qu'elle dit aimer. Elle désire qu'une chose. C'est Kiss, quoi. C'est ce personnage de Kiss. Donc, en fait, elle est amoureuse que d'un garçon. C'est que lui. Il n'y a que lui qui l'intéresse. D'ailleurs, elle-même ne l'intéresse pas trop. Et en fait, quand elle a l'impression que c'est son désir qui la commande. Qu'elle est commandée par son propre désir. Pour Kiss. Mais finalement, quand elle essaye d'avoir une relation avec Cosmic, l'autre garçon, ça se passe pas si bien parce que en fait elle essaye, elle a tout pour elle, c'est-à-dire c'est un endroit hyper glamour avec des draps noirs et tout, c'est trop beau, le mec est bien, tout se passe bien, mais non, elle ressent pas ce désir et le désir, c'est ça et du coup elle est désespérée, c'est le manque en fait, mais c'est comme quelqu'un qui veut que je voudrais que prendre de la cocaïne, je veux que ce garçon, bon je sais pas si c'est enfin, c'est elle est commandée par son désir. Son désir est devenu un maître qui lui fait du mal, quoi. Son désir, il lui fait du mal à Blanche. C'est pour ça.
Aviez-vous déjà écrit d'autres manuscrits non publiés avant ce roman, Si Blanche est la nuit, Clémence Veilleur?
Oui, j'ai déjà écrit. J'ai déjà écrit des textes, mais même je les ai perdus. Enfin, je les ai même plus, quoi. Mais j'ai écrit.
Et il n'y en a aucun que vous aviez déjà envoyé à un éditeur?
Ce même roman.
D'autres,
j'ai envoyé des textes une fois à un éditeur, mais c'était des nouvelles quand j'avais 17 ans. Et puis c'est tout. C'est tout.
Pouvez-vous nous dire quelques mots des éditions Exil, que je ne connaissais pas du tout ? Quoi, un beau catalogue ?
Alors, les éditions Exil existent depuis les années 90, comme ça. Ils ont publié plein de textes. Je ne sais pas, moi je les ai rencontrés parce qu'il y avait un texte de Sophie Anne Delhomme, Sunset Paradise, qui m'avait plu. J'avais trouvé que ça parlait de photographie, il y avait des thèmes, ça parlait de contemporains, de gens d'aujourd'hui, ça m'avait plu, l'écriture m'avait plu de Sophie Anne Delhomme. Du coup, c'est comme ça que j'ai découvert les éditions Exil. Après, j'ai rencontré l'éditeur Philippe Thureau d'Angin, avec qui j'ai eu un bon contact, et je me suis rendu compte qu'il avait été l'éditeur de Gilles Châtelet, qui était le livre de chevet, enfin, Vivre et penser comme des porcs, qui était le livre de chevet de mon grand frère. C'est quand même dingue. Et je ne savais pas du tout, hein, quand j'ai envoyé. Et c'était j'ai commencé aussi à lire quelques textes de la maison d'édition, d'autres textes. Il y a des choses qui sont plutôt philosophiques. Il y a beaucoup d'essais et de philosophie, pas beaucoup de romans. C'est quelqu'un qui a l'air de suivre, en tout cas, ses envies et pas du tout d'essayer de plaire ou quoi que ce soit, de publier des textes qui lui plaisent sans autre question que en quoi il croit lui-même, quoi. Voilà.
Merci, Clémence. Nous allons passer un morceau de musique. Pouvez-vous nous parler de la musique ? Je crois que vous chantez dedans.
Oui.
Je vais découvrir, je ne connais pas du tout.
Donc c'est une chanson, enfin c'est un peu plus une répétition, quoi. Et j'avais chanté à l'époque où... à l'époque où justement, j'avais une histoire avec un DJ, et donc il faisait de la musique, et on avait fait ce petit morceau comme ça, mais... C'est pas vraiment un morceau, c'est un enregistrement. Après, lui, il le passait des fois dans les soirées pour des trucs où les gens dansent, quoi. Ça représente bien l'histoire d'amour qui m'a inspiré le livre, quoi.
On n'a pas parlé, vous parlez de DJ, on n'a pas parlé de Berlin, New York et Bruxelles. Ces trois villes...
Ah oui, Berlin, c'est super important. Mais Berlin, ça va avec Nan Goldin, la rencontre en fait de Nan Goldin, donc déjà l'esprit new-yorkais de Nan Goldin, mais l'esprit, voilà, destroy, quoi, en dehors des normes. Après, quand j'étais à Berlin, j'ai adoré, parce que j'ai rencontré, déjà j'ai vécu la nuit, c'est là que j'ai, parce que j'ai commencé à revivre la nuit, parce que j'avais déjà aussi... J'avais pas mal vécu la nuit à un moment donné. Donc c'est une ville où il y a beaucoup d'artistes. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont intéressés par la musique et les clubs. Et qui donc créent dans les boîtes de nuit. Donc ils vont par exemple dessiner dans des boîtes de nuit. Ils vont écrire dans les boîtes de nuit. Il y a beaucoup de costumes. Il y a beaucoup de c'est aussi lié à la mode. Donc il y a beaucoup de gens qui se déguisent. Ça me plaît énormément, en fait, ce mode de vie. Moi, j'aimerais vivre comme ça. J'aimerais, au lieu de faire des dîners, j'aimerais qu'on vive comme des sauvages, à écrire, à se dessiner les uns sur les autres. J'en sais rien, faire ce qui nous passe par la tête.
Vous êtes resté à 17 ans, quoi.
Ouais, j'aime bien. Oui, mais bon, j'apprends aussi à faire avec la réalité et tout. Pas trop de mégalomanie.
Je vous remercie, Clémence. Alors, comment il s'appelle, ce morceau ?
Il s'appelle Permanent Lovers, donc les amoureux permanents.
Et le nom du groupe ?
Et c'est Super Secret Lovers. Super Secret Lovers, on le trouve sur SoundCloud.
D'accord, je vous remercie, Clémence. Musique, Erwan. Bonjour, vous écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous pouvez prendre la carte d'auditeur au 145 rue Amelot à la librairie Publico pour 20 € pour nous aider à faire des émissions libres, ou aller sur le site ou même à la librairie aussi, prendre une souscription de 8 € par mois, toujours pour nous aider à faire des émissions vraiment libres. En première partie d'émission, nous avons reçu Clémence Veillant pour son livre « Si blanche est la nuit » sorti aux éditions Exil. Maintenant, c'est l'entretien du dessinateur, éditeur et écrivain Frédéric Pajac pour son livre « Dans le calme du soir » sorti en 2023 aux éditions Noir sur Blanc. D'abord, avant de passer à votre livre, je souhaiterais que vous nous présentiez deux livres. Le premier, c'est celui intitulé « Basse-Coulard, dessinateur virtuose, clochard magnifique et femme inventée », sorti en 2023, je crois, dans votre maison d'édition, Les Cahiers Dessinés.
En fait, c'est une réédition, parce que je l'ai édité il y a 6 ans, et on a tout vendu. C'était un succès énorme. Et on a fait d'ailleurs plusieurs éditions, puis maintenant il était introuvable, ce livre. Donc, entre-temps, on a reçu des documents inédits de Basse-Coulard, notamment 19 lettres qu'il a écrites à son maître, son professeur et son maître, celui qu'il appelait son maître. Et puis donc, c'est l'histoire de Basse-Coulard, c'est-à-dire... c'est un clochard, c'est quelqu'un qui a d'abord assisté à l'assassinat de son père par sa mère, qui l'a tué dans la cuisine en lui tirant un coup de revolver dans le dos. Et puis, suite à cet événement, donc il a perdu son père, mais il a aussi perdu sa mère qui est partie en prison. Et donc, il s'est retrouvé sans famille. Et il est devenu petit à petit clochard, mais un clochard volontaire. Et il vivait donc à Bourges, où il a vécu pratiquement toute sa vie. Il est né juste à côté de Bourges. Mais bon, ensuite, il s'est mis à dessiner. Il dessine, c'est un dessinateur prodigieux, c'est un dessinateur virtuose, qui est capable de dessiner toutes les rues de Bourges et les édifices, même de mémoire. C'est-à-dire qu'il vivait dans une cabine de camion, désaffectée, dans un terrain vague, et donc il était capable de redessiner ce qu'il avait vu, et avec une précision assez exceptionnelle. Et il avait plusieurs cordes à son arc, si on peut dire. Il dessinait aussi des dessins totalement abstraits, c'est-à-dire strictement géométriques. Il dessinait des cartes de géographie, notamment de tous les États américains, et puis la Jamaïque, Cuba, etc. Et là, il redessinait ces cartes avec une minutie vraiment phénoménale.
Il copiait,
mais il disait qu'il corrigeait les cartes étaient mal faites, il les corrigeait. Et puis surtout, il dessinait des patrons de robes pour femmes. Et il les faisait fabriquer, confectionner, et puis il les portait, il se faisait photographier. Alors il y a on a retrouvé des centaines de photos avec des robes en cuir, des robes en flanelle, enfin, toutes sortes de... des jupons, tout ce qu'on veut. Et il était par ailleurs un ami des animaux. Il était toujours entouré d'une meute de chiens et surtout de chats. Et puis...
qui était dans le terrain vague ou...
Qui était dans le terrain vague et qui se déplaçait avec lui aussi, parce qu'il allait dans les rues, il se tenait debout, il était dans une... Son habit permanent, c'était une sorte de bure du Moyen-Âge, comme ça, et il supportait pas la chaleur, donc il marchait presque pieds nus ou en sandales, en tout cas, hiver comme été. Et puis, il a parlé à la télévision parce qu'il y a eu une émission sur lui, enfin, un entretien avec lui. Et comme il était assez fantasque et tout ça, il a commencé à dire qu'il était millionnaire, que ses œuvres valaient une fortune, ce qui était évidemment faux. Il y a des petits voyous qui ont entendu ça et qui l'ont séquestré et qui l'ont torturé avant de l'assassiner. Donc il est mort assassiné. Et donc ce livre, qui s'appelle Basse-Coulard, tout simplement... c'est maintenant une réédition importante qui fait 400 pages avec évidemment beaucoup beaucoup de ses dessins, de ses cartes de géographie, aussi beaucoup de photos où on le voit et toutes sortes de documents, plus ces 19 lettres qui sont totalement inédites.
Le second, c'est le catalogue du Festival du Dessin que vous venez d'organiser à Arles du 22 avril au 14 mai. Est sorti aussi dans votre maison d'édition Les Cahiers Dessinés. Pouvez-vous nous présenter ce catalogue ?
Alors, le Festival du Dessin, c'était la première édition, donc cette année, ce printemps, et il réunit 40 artistes, c'est-à-dire 40 expositions, dans 10 lieux de la ville d'Arles, des lieux patrimoniaux et des lieux aussi des églises, mais aussi des musées. Les principaux musées, enfin tous les musées, même tous les musées de la ville ont été réquisitionnés presque. Et puis on a présenté donc quelque chose comme 1200 dessins, dont Sempé, Victor Hugo, Hervé Di Rosa,
Pierre Leschinski. Vous arriveriez à dire la liste ?
Par cœur ?
Oui.
Ça prendrait du temps.
Bah, on a du temps. Pour voir, non, sans aucun intérêt. Pour montrer la richesse, qu'il y a aussi bien des gens connus qu'inconnus, mais que c'est quand même un très très riche festival.
Alors,
chaque dessinateur avait une salle.
Alors, Adrien Neveu, Edmond Quinche, Jean-Baptiste Sécheret.
Qui est venu ici au mois de décembre parler de ses tableaux.
Albert Yersin. Besson-Pierre, Sempé, Olivier Stoppet.
Une très très grande exposition de Sempé qui a l'honneur au festival.
150 dessins. Ouais.
Voilà, donc c'est ouais. Énorme.
Hervé Di Rosa, Joël Persson, Loustal.
Celui qui fait les paysages de Paris entre deux guerres.
Alors je continue, hein, parce que Alain Sommer, ensuite Claire Nicole, Noyau, Mylène Duc, je cherche.
C'est l'interrogation. Ouais. Ils n'auraient pas 20 sur 20.
Après, non, mais j'y suis presque. Hein. Et il y a. Pavel Schmitt, Olivier, Roland Topor, Paul Dimunch, Philippe Vuhumain, El Rotto, Lopatine, Wozniak, Pat Nozer, ah, j'ai oublié les autres.
Bah, c'est bien. Non, mais c'est pas grave. Mais tout ça, c'est pour montrer la richesse du festival, quoi.
Alors, le catalogue, il...
Alors, parlez du catalogue, maintenant.
Alors, le catalogue, il présente un certain nombre d'œuvres. Pas toutes les œuvres, il n'y a pas 1200 reproductions, non. Mais il y en a un certain nombre. Il y a à peu près 200 reproductions qui permettent de voir, justement, le... Parce que le but de ce festival, c'est pas de faire un festival branché du dessin ou un festival d'art contemporain, enfin ce qu'on appelle l'art contemporain. Moi, j'appelle ça le dessin d'aujourd'hui ou du temps présent. Et C'est en fait de montrer la diversité du dessin, de montrer que c'est un langage qui permet toutes sortes d'outils et toutes sortes de supports. Et pour moi, d'ailleurs, une des revendications de ce festival, c'est de montrer que il n'y a pas de frontières, presque plus de frontières entre la peinture et le dessin. Que, par exemple, les œuvres de Pierre Alechinski sont souvent toujours des œuvres sur papier qui sont marouflées sur toile. Et donc, est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que c'est du dessin? Est-ce que le dessin préhistorique, c'est de la peinture? Ou, tout ça, est-ce que c'est le trait qui détermine le dessin? Ou est-ce que c'est... Alors, pour moi, évidemment, une peinture monochrome, c'est une peinture, c'est pas un dessin. Il n'y a plus de dessin. Mais le dessin est partout. Et dans ce festival, on a présenté aussi, par exemple, du papier découpé. Et le papier découpé, ben, c'est quelque part, c'est du dessin, quoi. C'est un dessin qu'un cutter. Et pour moi, la gravure, c'est du dessin. Ça fait partie du dessin. Et enfin, l'intérêt d'un festival comme ça, c'est justement de montrer cette diversité. C'est-à-dire, chacun peut... Ce n'est pas un festival élitaire qui va montrer une tendance du dessin, comme on le fait dans les salons et tout ça. Donc, ce n'est pas du tout ça. C'est un festival qui est très exigeant, mais qui est aussi très populaire, quoi. Et d'ailleurs, on a accueilli un nombre de visiteurs bien au-delà de nos espérances. Et donc, c'est un festival annuel qui va recommencer chaque année, l'année prochaine, au printemps.
Frédéric Pajac, vous êtes né en 1955 dans les Hauts-de-Seine. Vous avez écrit presque 30 livres. J'aurai peu de questions biographiques, car je vous ai reçu à ce micro de nombreuses fois. Entre parenthèses, avec une partie biographique pour chaque émission, et même avec une émission portant sur une biographie qui vous concernait. Il y eut un moment de votre vie dont vous avez parlé, avec un collier particulier en Algérie très symbolique. Ce moment, je le trouve courageux dans le contexte. Et puisque nous sommes sur Radio Libertaire, pouvez-vous nous en reparler?
Vous parlez de mon pendentif que j'avais...
En Algérie.
En Algérie, c'est-à-dire que quand j'avais 20 ans, je suis parti en Algérie, dans le Sahara, où je suis resté une année. Et je suis parti en autostop. Et puis, quand je suis arrivé au Niger, je logeais dans une petite chambre, chez des Touaregs, mais sédentaires, qui étaient bijoutiers. Alors, je leur ai demandé de me faire un bijou qui était le signe de l'anarchie. Et je suis remonté en Algérie, qui était quand même dirigée par le colonel Boumediene, et ses méthodes absolument terribles. Et je me promenais toujours avec ce pendentif pour narguer la police qui effectivement a fini par m'arrêter et par pas m'emprisonner mais me garder dans leur cachot un certain temps, quoi, c'est-à-dire un mois à peu près. Et j'aimais bien cette façon de, quand on a 20 ans, on aime bien défier la...
Ouais, mais justement, vous risquez gros, quoi.
Oui. Tout à fait. Maintenant, je ne le ferai plus.
Mais vous pouvez le porter, le pendentif, en France.
Oui.
D'abord, vous faites deux choses distinctes. Vous écrivez et vous dessinez. Bon, maintenant, autre chose. Avant, on va parler de travail d'éditeur. Pouvez-vous parler de votre travail d'éditeur?
Alors, ça fait maintenant 20 ans que j'ai créé, avec Vera Michalski, que nous avons créé, la maison d'édition Les Cahiers Dessinés, qui n'édite, comme le nom l'indique, que des dessins, pratiquement que des dessins. De temps en temps, on édite des textes, comme notamment ceux de Delphèle Letton, et puis de Paul Nison. Mais sinon, c'est vraiment des dessins. On a donc publié 150 monographies à ce jour, de gens très célèbres, comme de gens complètement inconnus. Ça va de... Il y a Toulisky, Alechinski, Boltanski, Alechinski, j'ai déjà dit. Il y a des gens totalement oublié, totalement inconnu. Là, on vient de publier les dessins de Victor Hugo, par exemple. Ça, c'est, hein, et on a publié un livre de Ferdinand Hodler, qui est vraiment un peintre suisse extra, qui est mort en 1917, qui a peint l'agonie de sa femme, sa compagne, pendant qui a été atteinte d'un cancer. Il l'a peint et dessiné tous les jours. Jusqu'à sa mort, jusque sur son lit de mort. Et c'est un livre absolument bouleversant. C'était mon rêve d'éditeur de publier ça, et c'est devenu une réalité. On a édité, par exemple, tout Roland Topor, pratiquement. On est presque au bout. On aura publié des milliers de dessins de Roland Topor. Et puis, Olivier, qui faisait partie aussi du groupe Panic. Là, on publie aussi des... Cette année, on va publier encore des dessins politiques de Michael, qui s'appellera Actualité. On va publier Anna Sommer, les papiers découpés, justement. Et puis, voilà, c'est une maison d'édition qui a mis un certain temps à s'implanter, à devenir, à pouvoir travailler avec des musées. Tout ça, au départ, on était pris pour des farfelus, quoi. Et en fait, le dessin n'intéressait personne il y a 20 ans, quoi. Donc, on a fait un travail considérable pour faire connaître le dessin. Et maintenant, je trouve que les choses ont changé, quoi. La preuve, c'est que quand on fait un festival du dessin, il y a autant de public et un public mais d'un enthousiasme vraiment inouï, quoi. C'était vraiment bouleversant de voir les gens tout à coup vraiment s'intéresser au dessin alors qu'ils y connaissaient rien, quoi. Souvent, ils nous disaient non, on n'a jamais fait attention au dessin.
Quand je suis allé à Arles, ma logeuse, il connaissait rien du tout, bah il était allé. Et ça lui avait beaucoup plu, je vous le dis comme ça, quoi.
Ouais, ouais.
Mais elle y connaissait rien, c'était pas... Ouais, c'était ouais. Pas enfin, elle connaissait comme tout le monde, quoi. Mais c'était pas du tout une spécialiste, quoi. Et c'est génial que ça permette à n'importe qui d'y aller, quoi.
Voilà, alors le festival, c'est... Bon, moi, comme commissaire, j'ai fait beaucoup d'expositions sur le dessin. J'en ai fait une à la Halle Saint-Pierre, il y a quelques années. Et puis, pour moi, c'est un prolongement du livre. C'est la possibilité de voir des originaux, quoi. De se rendre compte vraiment physiquement de ce que c'est le dessin.
Vous avez cité tout à l'heure Victor Hugo. Moi, j'étais très surpris des dessins de Victor Hugo. C'est des portraits. C'est presque de la caricature.
Oui, c'est pas vraiment de la caricature. C'est pas toujours de la caricature. En fait, c'est la première fois qu'on montre un livre avec juste ses portraits. Parce qu'on connaît les paysages un peu fantastiques, un peu surréalistes, pré-surréalistes de Victor Hugo, c'était assez connu, mais les portraits, ils n'ont jamais
été... On connaît aussi ces dessins érotiques avec l'exposition, voilà. D'Annie Lebrun à la maison Victor Hugo.
Tout à fait, oui. Et puis, en fait, la Bibliothèque Nationale nous a prêté un ensemble pour le festival, mais aussi on en a édité un peu plus de 120, et c'est un livre tout à fait singulier qui est vraiment intéressant, qui montre la liberté de Victor Hugo.
D'abord, vous faites deux choses distinctes. Vous écrivez et vous dessinez. Y a-t-il une différence au niveau du sens dans ces deux moyens d'expression, ou est-ce la même chose? Cela ne touche pas nos mêmes sens, non?
Ça n'a rien à voir, l'écriture et le dessin. Pour moi, c'est deux langages totalement hostiles qui sont pas faits pour se retrouver, quoi. Et qui se retrouveront jamais, d'ailleurs.
Vous les faites bien se réunir dans vos livres.
Oui, mais ils restent en contradiction. C'est une contradiction. Et je dirais que pour moi, mais ça, ça n'engage que moi, mais pour moi, l'écriture, c'est la conscience, et le dessin, c'est l'inconscience. Moi, je peux dessiner que dans un moment moi, je dessine sur une période très courte, sur 2 mois à peu près, et je fais 200 dessins.
Par an, 2 mois par an.
2 mois par an, voilà. Et puis je travaille presque dans un état d'hypnose ou de transe. Et j'accumule les dessins. Bon, moi, j'ai un dessin qui est très proche de la gravure, donc qui est fait de hachures, de noir et de blanc, qui est assez compliqué à faire, avec souvent beaucoup de décors, beaucoup de villes, des maisons, et beaucoup la nature aussi. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce que je recherche, c'est un état second. Alors que dans l'écriture, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que l'écriture, pour moi, c'est la conscience. Il faut être le plus concis possible. Moi, je suis pas du tout graphomane, par exemple. J'écris pas pour le plaisir et par maladie, quoi. J'écris le strict nécessaire. J'écris que ce que je publie, d'ailleurs. Et je dessine que ce que je publie.
Donc il n'y aura pas d'inédit après votre mort.
Non.
Nous allons maintenant parler de votre livre « Dans le calme du soir », sorti Frédéric Pajac aux éditions Noir sur Blanc. Ce livre mélange dessin et texte. Comment a-t-il été conçu? Comment se présente-t-il?
Comment il a été conçu? Comme tous mes livres, en fait. C'est un seul, moi, je crois que je fais un seul et même livre. Souvent, d'ailleurs... Bon, il se présente. Vous voulez savoir comment il se présente?
Oui, oui, oui. Bah, tout savoir. Tout savoir.
Je regarde, j'ai oublié. Pour moi, quand un livre est fait, il est fait. Je ne reviens pas dessus. Je ne le relis pas. Donc, il fait 250, un peu plus de 250 pages. Il doit y avoir 200 dessins à peu près dedans. Et puis, les dessins sont. Accompagne le texte, mais ne l'illustre pas. Il n'y a pas d'illustration. C'est vraiment deux langages, encore une fois, hostiles, quoi. Et donc, c'est comme une bande son. C'est comme si, dans un film, c'est comme si, dans un film, on laissait passer la bande son. Et que la bande-son n'avait rien à faire avec l'image.
On va faire une pause, puis après on passera à la lecture. On fait une toute petite pause avec la musique que vous avez amenée. Musique Erwan, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo-une-voix@gmail.com. Vous pouvez aussi la contacter, émission Demo Une Voix, librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris. Musique Erwan.
Tu savais comment s'embrouille à la manie ton écureuil bien plus souvent à la manie, quoi. Parfois je pense à toi si fort, je le crée ton âme et ton corps, je te regarde et m'émerveille. Je me prolonge en toi comme le fleuve dans la mer et la fleur dans la baie. Que devienne quand je suis pas là mon bel amour, ton froid de comme fine soie et tes yeux de velours. Tourne tout vers la côte nord pour voir un peu, pour voir encore ma main qui te fait signe d'attendre. Soir et matin, je tends les bras, je te rejoins que tu sois et je te garde. Dis-moi ce qui passe à Trois-Rivières et à Québec. Là où la vie attend de faire et tout ce qu'on fait avec. Dis-moi ce que passe à Montréal, dans les rues sales et transversales, où tout est toujours la plus belle. Car la laideur ne t'atteint pas, toi que j'aimerais jusqu'au trépas, mon éternel.
les vins ferrants à cœur de jour, mais on est tous des bons errants, cloués leurs amours. Il y en a qui jouent la guitare, d'autres qui jouent l'accordéon pour passer le temps quand il est trop long. Mais moi je joue les mêmes amours et je danse en disant ton nom, tellement je t'aime. Si tu savais comment on s'ennuie à la manie, tu m'écrirais bien plus souvent à la manie.
Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation, sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Nous avons une première partie d'émission avec Clémence Veillant pour son livre « Si blanche est la nuit » sorti aux éditions Exil. Nous avons une deuxième partie d'émission avec Frédéric Pajac pour « Dans le calme du soir » sorti aux éditions Noir sur Blanc. Après quelques questions d'ordre général, nous passons au livre. Nous venons d'écouter une chanson que vous avez amenée, Frédéric Pajac. Vous pouvez nous en parler deux minutes, de la Manique ?
C'est juste une chanson ouvrière, et c'est toujours assez amusant qu'un chanteur mystique, comme Leonard Cohen, ait chanté une chanson aussi populaire au Québec.
Alors maintenant, je vous propose de faire une petite lecture de votre livre pour que les gens se rendent compte de votre style limpide et clair et précis.
C'est vous qui le dites. Rue de Maubeuge. J'y ai vécu, j'y vis encore de temps en temps. Partant de la gare du Nord, longue chaussée où des voitures et des camionnettes s'impatientent de dévorer la pente qui conduit entre autres à Saint-Lazare. Rue des Martyrs, c'est autre chose. C'est une rue gagnée de basse lutte par l'armée des gentrifiés. Elle se reconstruit à coups de boutiques de saumon chic et d'huile de luxe. Paul Léoto y a vécu enfant, au temps où les omnibus tirés par les chevaux grimpaient jusqu'à Montmartre, on en pleurerait. Rue de Maubeuge, je prends un énième verre en terrasse avec un bon copain. 20 ans que nous prenons le même énième verre dans la nuit qui nous réconforte de sa tiédeur sucrée. Nous parlons de tout et de rien, heureux de ce babillage. Ce rien nous fait du bien. Il nous console de la laideur généralisée. Toi et moi, mon bon copain, nous allons à la pêche aux grandes idées et nous rentrons bredouilles, quelques soupirs au fond de nos filets. Le bistrot va fermer, le patron a l'habitude de terminer sa journée avec nous. Nous sommes ses éternels derniers clients, et cela nous vaut, à chaque fois, une grimace en guise de sourire.
Merci Frédéric Pajac. Par exemple, comment Frédéric Pajac avez-vous concrètement fait le magnifique dessin de la couverture, le chat ? Quelle technique ? Par quoi avez-vous commencé ? Expliquez-nous tous vos secrets.
Ben, je commence à dessiner au pinceau. J'essaie de comprendre, dans ce que je vois ou dans ce que j'imagine, la place du noir. Et je commence toujours par des masses noires au pinceau, à l'encre de Chine, toujours, sur un papier vergé.
Combien de grammes le papier ?
Très, très, très mince, 80 grammes. C'est un papier ingre que je retourne, je dessine au verso. Et puis sinon, je reviens à la plume, après, avec une plume très fine. Et je travaille comme un graveur, je fais des croisillons, des traits, des hachures.
Par exemple, les moustaches du chat, je me demandais comment vous les aviez fait.
Alors ça, c'est un coup de cutter.
D'accord.
Dans le noir. Et ça permet de tirer des traits blancs.
Ce texte parle au début du souvenir. C'est quoi un souvenir ? La vérité, un travestissement ou autre chose ?
Les souvenirs, il faut, surtout quand on atteint un certain âge, il faut les chercher. Il faut vraiment, il faut pas les laisser filer. Et plus on les cherche, plus ils reviennent. Et je trouve que dans l'écriture, moi je crois que dans tous mes livres, il y a beaucoup de souvenirs d'enfance. Et au fond, j'ai quand même réussi, pour moi en tout cas, en une trentaine de livres, à reconstituer une partie de ma vie d'enfant et d'adolescent. Et ça, c'est grâce à cette discipline du souvenir. C'est une discipline de... Enfin, je pense que des gens qui font... Moi, j'ai jamais fait de psychanalyse, mais les gens qui font une psychanalyse, ils sont pas loin de faire une démarche similaire.
Est-ce le livre de la nostalgie du temps qui passe?
Alors moi, je suis pas nostalgique. Enfin, je crois pas que je sois spécialement nostalgique, quoi. Je pense déjà, quand on fait des livres, on n'est pas nostalgique, on est toujours dans un projet. Le livre, c'est un projet, c'est un éternel projet. Moi, je fais un livre chaque année, donc je suis toujours dans le projet du livre, quoi. Je suis toujours, je vis pour le livre.
Vous dites que vous dessinez pendant 2 mois, mais vous écrivez toute l'année, ou comment?
J'écris toute l'année. Je lis beaucoup, parce que souvent, je fais des livres qui sont biographiques, que j'ai fait, par exemple, sur beaucoup d'auteurs, Walter Benjamin, Ezra Pound, Van Gogh, Marina Tsvetaeva, Emily Dickinson, je sais plus, il y en a tellement, Pessoa, Nietzsche, Joyce, j'ai fait beaucoup de biographies, de Rimbaud, l'autre Rimbaud,
j'ai pas tout lu.
Germain Nouveau, etc. Donc la plupart des livres réclament surtout un temps de lecture considérable, c'est-à-dire qu'il faut lire tous les jours, avec une discipline, il faut tout annoter, il faut tout, c'est vraiment du labeur, quoi. Et surtout, moi, je lis beaucoup, je lis à peu près 15 000 pages pour faire un livre de notes et tout ça. J'ai à peu près 300-400 pages de notes. Mais ce livre-là, dans le calme du soir, c'est pas un livre biographique, c'est un livre autobiographique. J'en avais fait un qui s'appelait Blessure aussi, dans le Manifeste Incertain. Moi, je précise ce que c'est que le Manifeste Incertain. C'est un livre qui fait 9 volumes et que j'ai terminé il y a 3 ans. J'ai travaillé 10 ans pour faire ce manifeste. Mais le Manifeste Incertain, c'est aussi un grand livre de voyage. Celui-ci aussi, dans le Calme du Soir, c'est aussi un livre de voyage, puisqu'il y a 6 villes qui sont des villes que j'ai aimées, et je suis retourné pour faire le livre. Je suis retourné à Athènes, je suis retourné à Aoste, je suis retourné...
Et les dessins, vous avez fait sur place? Parce que je me la question.
Des fois, j'en fais sur place, et des fois pas. Des fois, je fais d'après des photos, des fois, je fais... Ça dépend, des fois, des cartes postales, des fois... Tout ce qui est dessin de nature, les arbres, la forêt, les lacs, les rivières, la mer, les montagnes, tout ça, je le dessine dans la nature. Je le dessine sur le vif, quoi. Mais si je dois faire le portrait de Nietzsche, je pars d'une photo, ou de Walter Benjamin, je pars d'une photo. Donc j'interprète la photo, je recrée une autre lumière que celle de la photo. Moi, je suis pas un grand amateur de photos, donc pour moi, c'est une transgression, le dessin de la photo. Moi, j'ai publié un livre le dernier livre de Cartier-Bresson, que j'ai fait avec lui, et qui est un livre qui s'appelle Au crayon. J'ai publié au Cahier dessiné, et je voyais Cartier-Bresson plusieurs fois par semaine, et il disait toujours que... Il avait arrêté de faire la photo depuis longtemps. Il disait toujours que le dessin est l'art suprême et que la photographie est un art de concierge. Il me répétait ça tous les jours.
Bah, il vous reste 2 minutes, hein, pas plus, pour évoquer les oncles, puisque c'est comme on les trouve en filigrane dans ce livre-là.
Bah, j'ai fait le portrait de 3 oncles qui, en fait... devient le portrait de l'après-guerre, de la guerre et de l'après-guerre, puisque j'ai un oncle qui a combattu dans la Première Guerre mondiale, qui est devenu résistant, et qui était d'abord enrôlé de force par les nazis, et qui est allé sur le front russe, qui s'est échappé du front russe, qui a réussi à rejoindre la division Leclerc, et qui a libéré sa ville, qui était Colmar. Il était sur un char à Colmar, donc j'ai raconté un peu sa vie, cet homme assez brutal et assez paradoxal.
Raciste.
Et oui, c'était des gens du Front National. J'ai un autre oncle qui a fait la guerre d'Indochine et qui était vraiment traumatisé par la guerre d'Indochine, qui était lui aussi un homme, à part ça, très sympathique, mais vraiment avec des idées très pénibles, je veux dire. Et j'ai un troisième oncle qui était le secrétaire général du Conseil de l'Europe à Strasbourg.
Qui était plus sympa, lui.
Et qui était italien. Et lui, il représente pour moi la guerre froide. C'est un peu le... C'est, donc, c'est trois... trois oncles qui ont été, dont la vie a été complètement bouleversée par la guerre. Et quand je dis la guerre froide, c'était un ami d'Aldo Moro, donc il a connu aussi la guerre terroriste avec l'exécution d'Aldo Moro que j'ai rencontré quand j'étais enfant. Et donc, voilà, ça fait partie des souvenirs que j'ai décidé de raconter.
Ben, je vous remercie, ce sera le mot de la fin, Frédéric Pajac. Vous avez écouté, je vous remercie tous les deux d'être venus. Clémence Veillant, merci. Merci Frédéric Pajac. Vous avez écouté l'émission Démo, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation. Nous avons parlé du livre de Clémence Veillant, Si blanche est la nuit, sorti aux éditions Exil en 2023. Et nous avons parlé du livre de Frédéric Pajac, Dans le calme du soir, sorti aux éditions Noir sur Blanc en 2023. Vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Après nous, Michel Polizzi n'assure pas son émission. Donc je ne sais pas si vous retrouverez La Fumée ou une autre émission à 18h30. En tout cas, il y aura la bande sans fin avec de la bonne musique. Et au mois prochain, troisième dimanche du mois. À bientôt. Au revoir. Musique, Erwan.
Toi moitié paillasse, moitié Rimbaud. Et cette nuit, je t'élève un buste par ma chanson pour tous les beaux rêves de flibuste d'un petit garçon qui attachait ses chevaux devant le saloon, le Mexico, de la belle capucine, la valière, cheveux corbeaux, colt blanc et grand chapeau, comme Errol Flynn, 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 Flynn. Même si l'alcool, les femmes ou la dèche ont du temps.
Chemin.